du pasouk. Monsieur ce Rabbi Yehuda Bar Simon dit, l'obé amal, v'lobé yegia, bara kadosh baruchu et olamo, et la bitvar Hashem. Ukvar shamaim nasu. Afacha ve'aya or, enktiv kan. Et la vaihi or, kvar haya. Donc, il met l'accent sur le fait que quand Akadosh Baruch Hu crée son monde, il le crée sans qu'il y ait une référence quelconque à un effort, à un travail, mais simplement la parole d'Hachem. La parole d'Hachem, c'est elle qui est à l'œuvre. Dans la parole d'Hachem, comme si les cieux étaient déjà dans cette parole. Et donc, il va appliquer ce même raisonnement. On ne va pas dire que Akadosh Baruch Hu a dit, il a parlé, et la lumière est advenu en quelque sorte, mais vaihi or, la lumière était déjà présente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle était présente? Où est-ce qu'elle était présente ici, cette lumière? C'est-à-dire que il y a quelque chose comme on veut montrer qu'il ne s'agit pas d'un travail, pas du tout d'effort. Si c'était la résultante d'une parole, alors ce serait un effort. Il faut dire cette parole et il s'ensuit la lumière. Mais maintenant, lui, il veut dire autrement. Il veut dire que il n'y a pas eu parole qui a entraîné ensuite la présence de la lumière ou l'existence de la lumière. Mais que c'est comme si la lumière était dans la parole. C'est-à-dire que, en tout cas, quand la parole a été émise, en même temps la lumière a été émise. Et ça, il le sait à partir de ce verset « Bidvar Hashem Shamaim Na'asu ». Ce que David HaMelech a dit avec ce verset-là, il a révélé, si vous voulez, fabrication, si on parlait comme ça, que les cieux n'ont pas été non plus produits par une parole. Mais la parole cieux, si vous voulez, la parole shamaim, cette parole contenait les cieux en elle. Nous, on est dans un monde où la parole, même si on la considère comme relativement performative, si vous voulez, néanmoins, cette parole, elle amène les choses, elle va les faire advenir, en fait. Mais dans la création, il y a autre chose. Quand Hachem parle dans les Mahamarim, dans les paroles d'Hachem, les paroles créatrices d'Hachem, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner ici, ce Rav Brechia au nom de Rav Yehuda Bar Simon. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Alors, dans le Hetz Yosef, il dit que ça veut dire que Bidvaro, par la parole d'Hachem, Tekef nas tu shamaim varas, le kolam mitziut kulam, le kolam vayom. Bon, il renvoie à Al-Sheikh. Donc, il introduit un tekef, ça veut dire immédiat. Mais il semble que le Midrash ne veut pas dire tekef. Le Midrash ne veut pas dire que c'est immédiat, immédiatement après. Le Midrash a l'air de dire que c'est en même temps, que c'est dans la parole. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre la parole qui parle, qui exprime le mot lumière, si vous voulez, et la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la création d'Hachem, elle n'est pas du tout sur le mode de la création telle que nous l'entendons. C'est quelque chose qui est absolument incomparable en réalité. Que la parole elle-même soit la chose, si vous voulez. Que la parole de la lumière soit la lumière. Que la parole de Shamaim Vaharetz, c'est Shamaim Vaharetz. Donc, a priori, ça veut dire que toutes les paroles d'Hachem sont de cet ordre-là, a priori. Puisque lui, il est passé de Shamaim Vaharetz. Bon, je fais une parenthèse pour rappeler que Shamaim Vaharetz n'ont pas fait l'objet d'une parole. Il n'y a pas de Vayomer pour Shamaim Vaharetz. Mais on avait vu la dernière fois que les Chachamim, quand ils expliquent dans Pirkei Avot, à d'autres endroits aussi, que le monde a été créé avec parole, les Chachamim font remarquer qu'on sait compter. Et si on compte les Vayomer, il n'y en a pas 10. Si on les compte, on n'en a que 9. Mais on avait vu la dernière fois que les Chachamim ont dit la chose de la manière suivante. Ils ont dit « Bereshit est également un Mahamar ». Donc, cette première phrase de la Torah, elle a aussi un statut, disons, de Mahamar. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. Mais, donc, on fait comme s'il y avait ici une parole sur Shamaim Vaharetz, et que cette parole elle-même, elle était Shamaim Vaharetz. Quand Kadosh Baruch Hu a dit Shamaim Vaharetz, et bien, dans le dire Shamaim Vaharetz, Shamaim Vaharetz était déjà là. Et donc, le Rav Yehuda Bar Simon, il dit, je prends ça comme modèle et je l'applique à Vayhi Or. Mais il l'applique parce qu'il trouve dans la façon dont la Torah nous rapporte ce Vayhi Or, il trouve que il faut faire attention au fait que la Torah n'a pas dit ce qu'on attendait. D'accord? Vehaya Or en Ktivkan. n'est pas Vehaya Or à la suite de la parole d'Hachem, mais Vaihi Or. Cette parole était lumière. On peut se demander est-ce qu'on avait besoin du limoud, est-ce qu'on a besoin de l'introduction que fait Rabbi Yehuda, que c'est parce que Shamaim Kvarna Asu qu'il le dit. Pourquoi est-ce que la remarque sur la forme verbale qui a été utilisée n'est pas suffisante? Afracha, il dit Vaya or en ktifkan, et la Vaihi or, kvaraya. Le Vaihi à lui tout seul, semble-t-il, n'aurait pas été suffisant. On n'aurait pas osé interpréter le Vaihi or simplement en remarquant qu'il n'a pas été dit Vaya or, mais Vaihi or. On n'aurait pas osé dire que ça voulait déjà dire que la parole était lumière. On avait donc besoin de l'introduction de Rabbi Yehuda. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette introduction? Pourquoi est-ce que de Vaihi Or, tout seul, on n'aurait pas pu le déduire? C'est pas qui on voit ça. Par conséquent, il va falloir qu'on comprenne pourquoi c'était nécessaire, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu le déduire directement? Mais avant ça, je voudrais remarquer que si effectivement on considère que quand Hachem parle, la chose elle-même est, elle est là. Donc, si vous voulez, les choses ne sont pas produites par la parole. Mais c'est comme si vous voulez, c'est comme si la matière parole donnait, je ne sais pas comment l'enlever, mais comme si la matière parole, si je peux parler comme ça, donnait, s'épaississait ou donnait ou devenait d'elle-même, sans aucune intervention, elle évoluait. Et elle devenait lumière. La lumière, c'est l'énergie, si vous voulez. Alors, effectivement, on a les énergies que nous avons, c'est les énergies qui, souvent, proviennent d'une forme d'énergie plus abstraite, si vous voulez, ou plus générale. Et ensuite, ça se particularise dans cette énergie-là, la chaleur ou l'électricité ou n'importe quelle énergie. Mais il y a une énergie de base, en quelque sorte, qui ensuite se dégrade de plusieurs manières. Donc, de la même manière, ici, on pourrait dire que la parole elle-même, je ne dirais pas se dégrade, mais elle se réalise sous forme de lumière. Donc tout ce qu'il nous est dit concernant la création, on peut se demander pourquoi ça nous est dit. C'est pas une information qu'on nous donne ici. Alors, on sait, on a vu déjà, que tout ce qui nous est donné ici nous est donné parce que Akadosh Baruch Hu Koach Ma'asav Igiv Le'amo. Akadosh Baruch Hu nous a raconté, il racontait à son peuple, au clan d'Israël, il a raconté Koach Ma'asav. Alors, Koach Ma'asav, on peut l'interpréter, dire que ça veut dire qu'Hachem nous a dévoilé, non pas Ma'asav, il n'est pas dit Ma'asav, il est dit Koach Ma'asav. Le Koach Ma'asav, c'est le Koach qui est à la base des Ma'asim. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a révélé quelque chose qui est à la source, à la base, y compris de Ma'asav, des actions d'Hachem. Or, on avait vu que cette question, c'est plutôt cette réponse, de Koach Ma'asav Igiv Le'amo, c'était une explication qui portait sur avant c'est à quoi raser la chem, à renaître la chem, c'est Koach Ma'asav. Ça veut dire, si tu veux essayer de comprendre, tant soit peu, tout ce qui se passe avec l'histoire d'Israël, alors tu dois avoir tout le Sefer Bereshit et le début du Sefer Shemot jusqu'à la parasha de Bo, jusqu'à cette parasha de Hachodesh Hazelachem. Que sinon, tu ne connaîtras pas Koach Ma'asav, tu ne sauras pas d'où vient tout ce qu'Hachem fait pour les Bnei Israël. Toute cette sortie d'Égypte qui est la naissance du clan Israël, cette naissance-là, Akadosh Baruch Hu nous a dit tout ce qui a précédé cette naissance. C'est comme s'il nous donnait une information sur, depuis la conception, en quelque sorte, jusqu'au moment de la naissance. Et donc, entre autres, justement ce qui est dit là, sur cette lumière, ça fait partie de Koach Ma'asav. C'est bien sûr ce qui est dans Koach Ma'asav. C'est à pour que nous puissions comprendre la suite, comprendre notre histoire en réalité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre quoi que ce soit de toute notre histoire, sans comprendre ces choses fondamentales qui nous ont été dites, et donc en partie, justement, ce qu'il est en train de nous dire sur ce Vayhi Or. Quand on regarde une mitzvah, on regarde comment on doit faire une mitzvah. Une mitzvah, c'est donc, on l'a déjà dit souvent, d'accord, la mitzvah, le mot mitzvah lui-même, tel qu'il est écrit dans la Torah, c'est une graphie qu'on peut lire de plusieurs manières. On peut lire mitzvah, c'est vrai, mais on peut aussi lire metzavé et metzouvé. C'est-à-dire qu'une mitzvah, c'est tout cela à la fois. C'est quelque chose qui émane du metzavé, celui qui donne la mitzvah, à Kadosh Baruch Hu, qui s'adresse au metzouvé, c'est-à-dire le clan d'Israël, nous, Et donc, et le contenu du message, c'est la mitzvah. Et cette boucle qui commence du Metsavé vers le Metsouvé, il faut remonter du Metsouvé vers le Metsavé. Le Metsouvé, donc le clan Israël, doit faire les mitzvot pour Hachem, si on peut parler comme ça. Et c'est ça le message aura bien été entendu et la charge, l'ordre qui nous a été donné, d'accord, c'est un ordre que on a entendu et on a répondu à cet ordre, on s'est plié à cet ordre. La plupart des mitzvot se font, même des mitzvot très très importantes. Une mitzvah aussi fondamentale, la mitzvah de tfilin ou de tzitzit, c'est une mitzvah fondamentale. Une mitzvah comme la mitzvah de tzitzit, on l'a vu la semaine dernière, c'est une mitzvah qui nous est donnée afin que nous nous rappelions et que nous, effectivement, que nous appliquions cela, nous rappelions de toutes les mitzvot. Cette mitzvah, elle est faite avec, essentiellement avec un fil de laine, avec une couleur qui est produite par un petit animal marin, a priori. C'est quelque chose d'archi-élémentaire. Un fil de laine. C'est un fil à laine sur un mouton, on en a fait un fil. Et on a teint avec un animal marin, un petit machin marin. Et là, on nous dit, hein, ce fil-là, j'ai invité à remarquer que, voilà, c'est un fil, donc il donne une direction, invité à laisser ton esprit vagabonder ou voler, en fait. Et la Gemara, elle dit, tu vas passer de ce bleu-là, très laid, c'est domé la yam. Yam, la savine, la mer, elle ressemble à des herbes, les herbes au ciel, et le ciel au trône divin. Donc, la mitzvah, elle est porteuse, elle nous invite en quelque sorte à faire fonctionner l'imagination, une imagination qui va nous aider à faire les mitzvot d'une certaine manière, avec toute cette imagination, que toutes ces mitzvot-là, elles nous rapprochent du trône divin. C'est bien ça qu'on a dit, ça va du Metsouvé vers le Metsavé. La plupart des mitzvot consistent à fabriquer des objets ou à manipuler des objets, faire des manipulations extrêmement banales. Pourtant, ces manipulations banales, elles ont un impact absolument faramineux. Mais qu'est-ce qui va leur donner cet impact faramineux? C'est justement, c'est que ces mitzvot-là, elles doivent, il faut les entendre comme des choses qui vont nous ramener, vous vous souviendrez des mitzvot, et grâce à ce fil très net, de comprendre que ces mitzvot, elles amènent au plus haut. Donc il y a le geste lui-même, et puis il faut ajouter à ce geste quelque chose qui va permettre à ce geste d'atteindre à ces niveaux archi-élevés. Ça permettre à La table est dans la mitzvah. C'est un pasouk. La mitzvah, elle est d'abord un verset. Elle est d'abord un mot ou une lettre. Bon, voilà tout ce que, grâce aux règles que les Rachamim nous ont données, on va pouvoir tirer toutes sortes de détails et de circonstances, etc., dans lesquelles ces mitzvot doivent être faites et comment elles doivent être faites pour justement atteindre. Et donc, de façon idéale, la mitzvah, c'est en quelque sorte l'aboutissement du verset en question. On a le verset qui est un verset qui est Dvar Hashem, la parole d'Hashem. La parole d'Hashem telle que Moshe Rabbeinu l'a entendu et nous l'a transmis. Puis ensuite, telle qu'il l'a écrit, telle que nous la lisons, que maître nous enseigne à l'interprète. Donc, elle va effectivement avoir l'impact qu'elle doit avoir. Oui, on est yotzé avec moins que ça, c'est sûr. On a la chale, le clair, que voilà, tu devais manger, j'ai mangé la quantité de matzah, c'est bon, j'ai fait la mitzvah de matzah. Mais évidemment que la mitzvah de matzah, bon, c'est vrai, je m'en suis acquitté dès que j'ai mangé la quantité nécessaire de matzah et que je l'ai mangé de façon accoudée, etc. Mais cette mitzvah, elle peut être entendue, elle peut être vécue comme étant l'aboutissement de la du tivouille de la mitzvah Hashem d'Achilat Matzah, avec tout ce que cette parole-là possède, tout ce que cette parole-là véhicule de richesse qui va, cette richesse qui va donc entraîner, cette richesse qui va élever l'acte, donner à cet acte sa vraie dimension. Ce que Pierre nous dit ici, quand il ramène ce Rabbi Yehuda, et il explique que c'est à partir de ce qu'on comprend, avec ce verset qui a servi à ouvrir, c'est lui qui ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ouvre? Il va ouvrir, il va servir à ouvrir une dimension nouvelle dans la compréhension du verset de la Torah. On a ce verset de Vayhi Or, et on essaie de savoir exactement tout ce que ce verset peut nous dire. Alors, on a déjà vu la semaine dernière une partie de ce qu'il peut nous dire. Et ce Rav Brachia, il ramène Rabbi Yehuda ben Simon. Et il dit, on peut comprendre quelque chose de nouveau de ce verset de Vayhi Or. Comment? Eh bien, justement, avec grâce à ce verset que David HaMelech a chanté, qu'il a inventé, dans lequel il a dit que Bidvar Hashem Shamayim Naasu. Bien entendu, si on entend ce verset-là, Bidvar Hashem Shamayim Naasu, on peut très bien l'interpréter en disant Hachem a parlé et les cieux ont été faits. Il y a une parole suivie d'une action. Mais Rabbi Yehuda Bar Simon, justement, il n'a pas entendu ce verset comme ça. C'est pour ça qu'il l'a pris comme quelque part comme un outil pour ouvrir un sens nouveau dans Vayhi Or. Et d'abord, il faut l'entendre pleinement, ce verset-là. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Alors nous, on a l'habitude d'entendre le bet de Bidvar Hashem par la parole de. Et lui, il a eu l'idée, Rabbi Yehuda Bar Simon. Il a eu cette idée de Jeli, en fait. C'est pour ça que c'est ramené ici. C'est qu'on peut entendre dans ce verset que David HaMelech a dit. Je ne sais pas ce que David HaMelech pensait. Est-ce que Bidvar Hashem Shamaim Naasu, tel qu'il a été dit par David HaMelech, c'était que le bet, c'était par le biais de la parole de, ou est-ce qu'il faut l'entendre dans la parole? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rabbi Yehuda Bar Simon, il l'a entendu comme ça. Et donc, il a entendu qu'il n'y a pas de Hamal, il n'y a pas d'Yegiya quand Hachem crée le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Hachem ne se fatigue pas. Bon. Pour Hachem, c'est peut-être aucune fatigue à créer le monde. Même si... Non, mais lui, il a entendu dans ce verset, c'est pas une question de se fatiguer ou de faire des efforts, etc. Mais c'est comme si le monde est apparu non pas comme un projet dont Hachem a parlé et qui lui a été très facile de le réaliser. Mais qu'en réalité, on pourrait dire, pour Hachem, il n'y a pas de différence entre projeter quelque chose et le réaliser. Il n'a pas besoin de passer à une phase de réalisation. C'est pas comme chez les hommes. Donc, ce qu'il a compris, lui, c'est que justement, en lisant Bidvar Hashem Shamaim Naasu, ça veut dire que quand Hachem a parlé, les cieux ont été faits. Qu'est-ce qu'il a parlé, Hachem? Hachem, il a parlé Shamaim Varetz. Il y a une phrase de la Torah qui s'appelle Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz. Ça, c'est considéré Bereshit nami ma'amaru. C'est aussi une parole d'Hachem. Et puisque c'est une parole d'Hachem, pas du tout un verset qui vient dire que quand Hachem a créé, il a d'abord projeté, puis ensuite il a créé, etc. Il y a une parole qui dit qu'Hachem, Réchit, il a créé Shamaim Vares. Comment il l'a créé? En le parlant. Dans sa parole, il y avait, dans la parole Shamaim, dans le mot Shamaim, si vous voulez, il y avait les cieux. Que les cieux ne sont rien d'autre qu'un épaississement, qu'une suite, une évolution du mot Shamaim. Avec tout ce qu'on a vu du mot Shamaim, des Shumaim, etc. Tout ça, c'était dans le mot Shamaim. Ça, c'était Bidvar Hashem. Donc, c'est intéressant, il l'applique à un Dvar Hashem qui n'a pas été une Amira. D'accord? C'est un Dvar Hashem. D'abord, il faut faire tout un travail pour savoir que Shamaim va être, ça a dans le cadre d'un Mahamar. Parce qu'a priori, il n'y a pas de Vayomer ici. Donc il y a déjà en amont, il y a tout le travail des Chachamim qui disent, ben, Sarah Mahamarot, ah, puisque c'est à Sarah Mahamarot, et que quand je fais la liste des Vayomer, j'en trouve que neuf, ça veut dire que je suis obligé de dire, ce fidouche, d'accord, que Bereshit Nami Mahamar. Cette phrase-là, c'est aussi un Mahamar. Et donc, ça veut dire, c'est un Dvar Hashem. C'est une parole d'Hashem. Cette parole d'Hashem, elle contient donc, il va arrêter et tout ce qui va avec. Bon, je vous ai dit, on pourrait se demander si on n'aurait pas pu, bien sûr, une fois qu'il nous a soufflé la solution, on pourrait dire, ben, je vois bien, vaï or et pas vaï or, donc voilà, c'est clair, la lumière était déjà là. Vayihor. Et peut-être que la raison pour laquelle, effectivement, peut-être qu'on aurait eu le courage, je ne sais pas, l'audace de dire ce que Vayihor contenait déjà la lumière, je ne sais pas, peut-être. C'est-à-dire que les Chachamim sont très audacieux, ils auraient peut-être pu le faire. Mais le fait que ce Rav Yehuda Bar Simon, il s'appuie sur l'application de son outil, à savoir le pasuk dans Tehilim, Midva Hashem Shamayim Nasu, pour l'appliquer effectivement à Shamayim, implique le Dvar Hashem sur Shamaim, que Shamaim kvar naasu vidvar Hashem. Il dit, puisque je l'ai dans ce texte-là, alors je l'applique également af acha ici aussi. Et alors je vais m'appuyer sur le fait que c'est pas marqué Vehaya, mais enfin, l'essentiel est déjà, on l'a déjà déduit de ce qui a été dit à avant, le travail sur le travail. Alors, ce qui est très important ici, c'est que on a une leçon, si vous voulez, qui nous dit que pour pouvoir dire quelque chose, il faudra me l'ait permis en quelque sorte. Il faut que je puisse m'appuyer sur un verset. Pour pouvoir dire ce qu'on va dire sur Vayihor, il faut s'appuyer sur le verset qui a parlé du ciel. Ça ne suffit pas. On ne peut pas le dire comme ça de but en blanc. C'est-à-dire que si tu veux vraiment comprendre les choses, il faut une source dans la Torah. Alors la source, on l'a eue seulement par le travail que Rabbi Yehuda Bar Simon a fait à partir du pasuk dans Tehilim sur ce premier verset. Bon, donc lui il a fait ce travail. Ici, c'est un travail gigantesque en fait. Mais à partir de ce moment-là, on dit « Afacha ». Ici aussi, je vais pouvoir dire les choses. Je pense qu'on retrouve ici ce processus, si vous voulez, qui dit que les choses, pour avoir leur vraie dimension, elles doivent être la suite d'un verset de la Torah. Je l'ai dit sur les mitzvot. Une mitzvah est une vraie mitzvah. Enfin, elle est vraiment faite à sa vraie dimension lorsque cet acte-là apparaît comme le prolongement, comme la suite, la même plus fort, on a dit, comme l'intériorité du verset lui-même, du verset qui parle de la mitzvah. J'ai un verset qui parle de la mitzvah, je peux prendre ce verset comme un ordre. Et donc j'accomplis l'ordre. Ok, je me suis complètement acquitté de mes obligations. Mais je peux l'entendre aussi autrement. Je peux l'entendre que ce verset lui-même, c'est lui qui va donner la vie vraiment à la mitzvah. C'est le travail de Rav Yehuda Bar Simon qui a donné vraiment la vie, donc qui a permis de dire « Afracha, ici aussi, je vais appliquer cette méthode et dire que la lumière était déjà là dans la parole d'Hachem. » Alors, le travail il a été fait sur quelque chose qui n'était pas une vraie parole. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Peut-être que ça ne pouvait se faire que sur cette non-parole. Parce que là-dessus, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de parole. On dit, c'est Nami Mahamar. On va le considérer comme un Mahamar, mais il n'y a pas effectivement un Vayomer sur le Shamayim Vaharetz. Et du coup, on peut dire plus facilement, ok, alors, comme il n'y a pas eu de Vayomer sur Shamayim, alors je peux dire, non, il n'y a pas eu de Vayomer parce que Bidvar Hashem, quand Hashem a dit Shamayim Vaharetz, voilà, c'était là. C'était arrivé. C'était, Shamayim était là. Et du coup, je l'apprends dans les situations où il y a un Vayomer, où je pourrais me tromper et penser que puisqu'il y a un Vayomer, donc il y a la parole d'Hachem, et ensuite seulement la mise en œuvre de cette parole d'Hachem. Alors, le travail ayant été fait à un endroit où il pouvait être fait plus facilement, sans qu'on ait d'ambiguïté, ensuite il nous sert de modèle. Je pense qu'il nous sert pas seulement de modèle pour ce qu'il en est de la création, parce que finalement la création en tant que telle, de toute manière, on n'est pas beaucoup plus avancé après qu'avant, parce que de toute façon, il ne s'agit pas du tout d'une description de la création des choses telles qu'elles sont dans notre monde. On est au système de la Bria, on est bien haut dans bien avant la création des choses dans notre monde, mais les choses qui sont dans notre monde sont aussi advenues de cette manière-là. D'accord? Ça veut dire, il y a aussi, au départ, une parole divine, et cette parole divine, elle chemine, bon, je prends des images, elle chemine à travers les différents mondes, jusqu'à arriver dans notre monde, où elle se réalise, elle s'actualise, elle se réalise de la façon que nous connaissons. Les choses se font dans notre monde. Mais, entre-temps, par exemple, il n'y a absolument aucune ordre qui nous est donné. La création des choses dans la Bria ne correspond pas du tout obligatoirement à l'ordre tel qu'il est dans le monde de la Asiya. Donc, ça fait partie des... Il n'y a pas de temps, si vous voulez, il n'y a pas d'avant et d'après, etc. Le temps, c'est aussi une création, donc il va être mis en place, si vous voulez. Et effectivement, alors on peut se dire, alors à quoi ça me sert, toute cette information? Alors, je vous ai dit, ça fait partie du Kohar Ma'asa B'Guide L'Amo. Et là, peut-être ici, le Kohar Ma'asa B'Guide L'Amo, c'est pas seulement qu'on me dit une information très importante, pourquoi effectivement on est sorti de Mitzrayim. Ne crois pas qu'on est sorti de Mitzrayim parce qu'on a pleuré, parce qu'on a souffert, etc. Ah, pas du tout. On est sorti de Mitzrayim parce qu'Hachem l'avait promis à Abraham Avinu. Il l'avait promis, c'est tout. C'est ça la vraie raison. Alors, effectivement, il y a des raisons apparentes. On a l'impression, c'est aussi marqué, quand je beaucoup il a entendu, etc. Mais pourquoi il a entendu pour... Tout ça, c'est parce qu'il l'avait promis à Abraham Avinu. Bon, ça c'est important de savoir, parce que sinon on ne comprend rien du tout à la sortie d'Égypte. On a compris. Mais peut-être que j'ai aussi besoin d'informations sur comment il faut lire la Torah. Eh bien, ça aussi, c'est Koach Ma'asa Vigil Lamo. Pour que tu comprennes comment on lit la Torah, comment on peut comprendre comment Hachem lit la Torah, si vous voulez. Bon, ben voilà. Voilà un élément. Il faut lire dans la Torah que les paroles de Torah sont grosses, elles sont pleines de la réalisation des mitzvot. Les paroles de Torah qui concernent la mitzvah sont grosses de cela. Et c'est pour ça que on peut comprendre, si vous voulez, que on dit, après la destruction du Beth Amikdash, où on ne peut plus apporter de korbanot, alors on nous dit, on nous enseigne, que dans cette situation, où effectivement on ne peut pas apporter concrètement les korbanot, on ne peut pas les approcher, on n'a pas de l'anoulo comme on dit, l'homme migdash, le kohen, etc. On n'a pas tout ça qui serait nécessaire, mais néanmoins on a dit que on va remplacer en quelque sorte les taureaux, dans les korbanot, par nos paroles. Par nos paroles, ça veut dire quoi? Parce que les paroles qui nous enjoignaient, qui nous disaient qu'il faut apporter tel ou tel corban, un taureau, un bélier, etc., etc., ces paroles-là, elles sont grosses de la mitzvah. Mais quand la mitzvah peut se faire, eh bien, il faudra que la mitzvah se fasse. Il faut que tout ce dont elles peuvent accoucher, si on peut parler comme ça, il faut qu'elles en accouchent. Mais quand on peut pas, alors neshalma parim svatenu. Alors à ce moment-là, eh bien, on va se contenter des paroles et on va comprendre que ces paroles sont grosses. Donc elles sont potentiellement, elles portent les taureaux, les béliers, etc. Ils sont là. Neshalma parim svatenu. On peut. C'est pas une parole en l'air, parce que ça veut dire, tu vas dire des mots et ça va remplacer les taureaux. Ça n'a pas de sens. Mais si de toute façon ces mots étaient, eux, gros des taureaux en réalité. Seulement qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité, on ne peut pas produire, les taureaux ne peuvent pas être produits vraiment. Bon, ben alors, les mots sont quand même là, ils sont pleins. On peut vraiment remplacer les taureaux par nos paroles, par les paroles qui concerne ces taureaux, bien sûr. Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est que les mitzvot, elles ne prennent leur vraie dimension que si on les entend comme prolongation du texte de la mitzvah tel qu'il est dans la Torah. Et par le texte de la mitzvah tel qu'il est dans la Torah, j'entends le texte avec tout ce dont il est porteur, en fait, tout ce que la Torah chez Baal Peh va faire avec ce texte. Donc, plus on aura de connaissances, plus profondément on va comprendre la richesse de ce pasouk, de la mitzvah, plus on aura d'éclairage, d'énergie qui va être donnée à cette mitzvah pour lui permettre d'être effectivement la boucle de retour, c'est-à-dire pour aller complètement, aussi complètement que possible, du metsouvé vers le metsavé. Encore une fois, la boucle elle est faite si on a fait les gestes qui étaient prescrits. On a mangé la matzah, ça suffit. On n'a pas demandé plus. Néanmoins, la boucle, elle est vraiment bouclée si, dans le retour, il y avait autant de richesses qu'il y avait dans l'aller. Donc, quand Hachem nous a donné la mitzvah, il a donné cette mitzvah avec des paroles extraordinaires, il faut maintenant que ces paroles-là accompagnent le geste, ou peut-être même lui donnent sa vraie dimension au geste que, avec lequel on s'acquitte, encore une fois, complètement de ce don. On a été dans tout ce que tout ce qui est produite dans toute la, que ce soit la Pnimiut, que ce soit le Zohar ou le Arizal, le Gaon de Vilna, etc., ou le Rashba, le Rambam, etc., bien sûr. Alors, je crois que c'est la raison pour laquelle on n'a pas simplement dit, et Charles Dayek, on peut faire, être très attentif au fait que on a écrit ici dans la Torah, Vayhi Or, et pas Vehaya Or. Voilà ce que je voulais dire sur ce deuxième paragraphe. On a peut-être le temps de commencer le troisième. Rabbi Shimon Bar Yochai Patach. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a utilisé un autre pasouk pour ouvrir, toujours sur ce pasouk, sur notre pasouk, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le pasouk de Vayhi Or. On veut parler de ce pasouk-là, l'éclairer au maximum. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il utilise un pasouk dans Michelet. D'accord ? Rabbi Yehuda Bar Simon a pris un pasouk dans Tehilim. Lui, il prend un pasouk dans Michelet. On a déjà vu que c'est en général les sources principales dans ce début de Midrash Rabba avec lesquelles on ouvre les sujets. On ouvre le sujet, c'est-à-dire on lui permet de dire plus que ce qu'on croyait qu'il pouvait dire de prime abord. Alors, il a un pasouk. Le pasouk dit Simcha la'ish v'ma'ane fiv v'davar b'yito matov. Simcha, c'est la joie pour l'homme. La joie pour l'homme, c'est, elle est dans le fait de ma'ane piv, dans ce que dit sa bouche. Peut-être, la réponse peut-être, Mahané, peut-être une dimension de réponse, en tout cas c'est la parole de sa bouche. Davar Beito est une parole, le mot Davar c'est à la fois parole et à la fois chose, n'est-ce pas? Donc, Davar Beito est une parole, on va dire ici, en son temps, qui est dite au moment, elle doit être matov, combien c'est bon. Bon, voilà un pasouk dans Michelet. Alors, avec ce pasouk-là, Rabbi Shimon va travailler notre pasouk à nous. Il va dire Simcha Laish, la joie pour l'homme, le Ish, c'est un homme. Lui vient, il dit non, c'est Akadosh Baruch Hu. Ish, le mot Ish ici, il faut l'entendre, non pas au sens de l'homme, mais ça fait référence à Hachem en se basant sur le pasouk de, qui a été dit au moment de, du passage de la mer, Hachem Ish Milchama, Hachem Shmo. Hachem est un homme de guerre, en fait, un guerrier, un homme de guerre. Et bien sûr, le pasouk continue, il dit Hachem Shmo. C'est Hachem son nom. Et puis la deuxième, la deuxième partie de cette première, enfin, la deuxième partie de la première partie du verset, bon, c'est Bemanefiv. Bon, c'est long, vous vous souvenez, on avait dit, c'est ici la parole de sa bouche. De Man et Fiv, lui, il met, Rabbi Shimon met ça en rapport avec Vayomer Elohim Yehi Or. D'accord, c'est notre verset qui est présenté ici comme étant Man. Alors, on avait, je ne sais pas. On a parlé donc de pourquoi est-ce que c'est Laish, on a vu, vous avez entendu ça? Pourquoi est-ce qu'il a interprété Ish comme étant un Kadosh Baruch Hu? C'est parce que c'est marqué, il y a un Kamat sous le Lamed, c'est Laish, c'est pas le Ish. Donc c'est le Ha-Ish et Ha-Ish, le Ish par excellence, c'est Hachem Ish Milchama, c'est Hachem. Bon, bien que le mot Ish, a priori, ça concerne les hommes, mais il y a dans certains cas, et en particulier dans le passage de la mer, où on a une phrase qui parlait de l'intervention d'Hachem, c'est lui qui a fait la guerre pour les Bnei Israël, contre les Égyptiens, comme Moshe leur avait dit, aux Bnei Israël, que Hachem ilachem lachem, et batem tacharishun, et vous taisez-vous. Et donc, Hachem ish milchama, Hachem s'est révélé effectivement, un homme de guerre, si on peut parler comme ça. C'est lui qui a fait la guerre. Bien, alors, j'avais vu, je crois, avec vous, S. Joseph, et bon, je ne pense pas qu'on arrivera à dire ce qu'on doit dire ici, mais essayons de voir le commencement. Il y a quelque chose, donc, d'après les commentateurs, dire que il y a une joie particulière pour Hachem, c'est ce que dit Rabbi Shimon ici, une joie particulière d'Hachem dans le fait que Ma'anepiv, dans le fait que Vayomer Elohim Yehi Or, alors d'après Yosef, c'est la première parole qui était prononcée, et c'est en cela que elle est vraiment bonne. C'est en ça que la lumière est vraiment bonne, parce qu'elle est venue exactement au bon moment. Bon, c'est Devar Beito. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de Beito? Ça implique que on a affaire, il y a déjà une notion de temps. D'accord? Ça veut dire, tout à coup, il existerait une notion de temps, et par conséquent, on peut se juger que quelque chose arrive à temps, arrive au bon moment. Alors, c'est quoi le bon moment? Alors, tout ce qu'on en sait ici, c'est que, d'après ce que disent ces commentaires, les commentateurs en question, c'est que c'est la première parole qui a été prononcée. Donc, être à temps ici, c'est être la première parole. Akadosh Baruch Hu se réjouit de ce que la première parole, sa première parole, ait été « Vayomer Elohim Yehi Or ». Et puisque c'était vraiment à temps, alors c'est vraiment bon. La lumière est vraiment bonne. Elle est bonne comme elle n'aurait pas pu être aussi bonne si elle n'avait pas été la première parole dite, ou en tout cas si elle n'avait pas été dite à ce moment-là. Alors le problème, c'est évidemment qu'est-ce que c'est que ce moment-là d'avoir Beito. C'est quoi Ito ici? Et puis ensuite, qu'Hachem se réjouisse que la première parole ait été Vayomer Elohim Yehi Or, c'est lui qui l'a prononcée, donc qu'est-ce que c'est? Où est la réjouissance? C'est lui qui a décidé qu'elle serait la première, donc on voit mal comment Hachem pourrait se réjouir de ce qu'il a fait. C'est bon, c'est réjouissant, mais puisqu'il l'a fait, c'est qu'a priori c'était bon. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'Hachem ait fait quelque chose et puis ensuite ils se disent, ben non, c'est pas bon? Alors, oui, on sait. Quand Hachem a décidé de quasi détruire le monde avec le déluge, par exemple, ben, ou ce qu'il a fait dans la tour de Babel, bon, il a jugé que c'était pas bon. Mais c'est l'intervention humaine qui a rendu les choses mauvaises. C'est pas qu'Hachem a fait quelque chose qui n'était pas bon. Alors vous me direz, mais peut-être que c'est par rapport au fameux monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, détruit, etc. A priori, si Hachem les a créés en premier, il les a créés avant notre monde, en fait. Avant ce monde dont la première parole est Vayomer Elohim Yehi Or, ces mondes, ils étaient premiers, si vous voulez, et pourtant ils ont été détruits. Donc, être premier, c'est pas une garantie que c'est la meilleure des choses. Et pourtant ici, la joie, Simcha pour Hachem. Simcha d'Hachem, Hachem se réjouit de ce qu'il a fait lui-même, en fait, n'est-ce pas? Ça, a priori, rien à voir avec les hommes. Donc voilà, c'est super, j'ai créé la lumière au bon moment. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire et... Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai veut nous dire ici, c'est quelque chose du genre que ce qu'on sait, ce que le pasouk nous dit, Vayar Elohim et Taor Kitov. Elohim a créé le... Il a dit que la lumière soit, on a vu donc ce que ça voulait dire. Et la lumière, elle est là. Elle est là au début. En première partie, en première parole. Comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que veut dire d'abord d'avoir Beito. Ça implique la notion du temps. Et je veux savoir quand est-ce que ce temps a été créé. Le Gaon de Vilna dit que le temps a été créé. Et quand est-ce qu'il a été créé, le temps? On saura bien qu'on va compter le temps, puisque à un moment donné, on va dire « Vayerev vayvoker yom echad » il y a un jour à passer. Et puis à partir de ce moment-là, on va se mettre à compter les jours, donc c'est une façon de compter le temps. Mais là, on est dans « Vayri Or », on n'a encore pas du tout mentionné cette idée du temps qui passe, d'une entité qui s'appellerait un jour, etc. Tout ça, on n'en sait rien de tout cela. Cette lumière, Akadosh Baruch Hu, vous le savez, il l'a créée, et elle va durer 36 heures, jusqu'à ce que Hachem décide que non, qu'il faut la mettre de côté, cette lumière. Pourquoi? Parce que Hachem ne veut pas que les Rechaïm puissent jouir, profiter de cette lumière. Cette lumière, elle est absolument extraordinaire. C'est une lumière avec laquelle on voit Mi Sof Haolam Vad Sofo. C'est une lumière dans laquelle, avec laquelle on peut tout voir. Semble-t-il, les choses sont transparentes avec cette lumière. C'est une lumière qui éclaire tout de façon parfaite. C'est-à-dire, c'est une lumière qui ne laisse pas de rien dans l'ombre, quoi, en quelque sorte. Non, tout est là, tout est éclairé, tout est en pleine lumière. Ça, c'est la qualité de la lumière. Mais, sauf à dire que c'est inclus dans le Vayar Elokim et Taor Kitov, on a vu qu'elle était bonne, cette lumière, mais on ne sait pas non plus pourquoi, en quoi elle était bonne.